Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL. Vincent Parisot, Bernard Werber.
Les fourmis en général, il fallait que je mette le doigt pour qu'elles montent dessus et je crois qu'elles n'arrivaient pas à comprendre qui j'étais.
Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges.
Le journal inattendu.
Chaque chat est un mystère, parce qu'ils sont plus intelligents que nous et ils ont des choses à nous apprendre, surtout.
Moi, vouloir être un chat, ma frotte contre tes bas. Je me ferai angora, quand bien soit quand je te vois.
12h30, 13h30.
Vous mettez les chats en colère. Il ne faut jamais mettre les chats en colère.
Le journal inattendu de Bernard Werber avec Vincent Parisot sur RTL.
Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Merci de prendre les commandes de ce journal inattendu jusqu'à 13h30, quelques semaines après la sortie de Sa Majesté des Chats, votre deuxième roman félin. Après les fourmis, les anges, les dieux, vous voilà donc passionnés, et nous également, comme des millions de lecteurs, parce que vous avez des millions de lecteurs en France et partout dans le monde, passionnés par les chats, à travers ce roman, mais aussi à travers une encyclopédie, d'ailleurs écrite par l'un des héros du livre, hein, voilà. Ce bon vieux Pythagore, qu'on avait déjà évidemment connu dans le premier roman, ancien chat de laboratoire à qui on a greffé une prise USB dans le cerveau. Tout ça pour vous donner une idée de l'esprit de Bernard Werber et de ce nouveau roman. Évidemment, on va beaucoup en parler. Votre reportage nous emmènera dans les sous-sols de Paris où les rats prolifèrent, preuve que ce que vous racontez dans le livre, finalement, n'est pas si loin de la réalité. Et puis à 13h, on accueillera votre invité, Jean-Louis Aubert. Vous avez souhaité qu'il nous rejoigne et il le fera avec son dernier album, Le Refuge, et pour le démarrage de sa tournée en février prochain. Et puis évidemment, quand on parle du chat, Philippe Guéluc miaule, alors il nous appellera tout à l'heure en fin d'émission. Mais avant de commencer par les infos que vous pourrez commenter si vous le souhaitez, Bernard, oui. Il faut maintenant vous tirer le portrait. Parlez de vous.
Vous voulez que je parle de moi? Quelle horreur.
Oui, je sais, c'est pas facile.
Alors, je suis un être humain de la planète Terre. Je suis vivant ici et maintenant. Je me trouve dans votre émission en train de parler. Ma fonction d'être humain m'a semblé être celle de conteur. Et pour ça, je rejoins une tradition qui date de l'homme des cavernes. C'est-à-dire, je me mets en phase avec le bonhomme qui se mettait autour du feu et qui racontait les chasses, les batailles, les décors, les voyages. Ma fonction d'écrivain consiste à faire rêver les gens plus loin, à leur donner de nouvelles perspectives, à les faire évader de leurs problèmes quotidiens. Je crois que c'est la fonction même du romancier. Le romancier, c'est la personne qui ouvre de nouveaux horizons. Et j'essaie de moi-même de m'ouvrir des horizons en ouvrant l'horizon de mes lecteurs.
Eh bien, on va essayer de rêver plus loin, hein, voilà. Avec vous jusqu'à 13h30. On commence évidemment par l'actualité de ce samedi 7 décembre, dominée par la consternation après la tentative de suicide de Willy Bardon hier dans le box de la cour d'assises de la Somme. Il venait d'apprendre sa condamnation à 30 ans de prison dans l'affaire Élodie Kulik. Il est toujours en réanimation, mais évidemment on se demande comment cet acte a pu être possible. Encore beaucoup de perturbations ce samedi dans les transports en commun. Un TGV sur 6, 15% des transiliens, un TER sur 10. Trafic très perturbé à la RATP également, sauf sur les deux lignes automatiques. Quelques autres lignes à Paris vont ouvrir de 13h à 18h en service réduit. Des difficultés sur les routes également, avec des barrages filtrants, des opérations escargots de l'OTRE, c'est l'organisation patronale des routiers, et elle dénonce la baisse d'un avantage fiscal sur le gazoil. Un week-end encore difficile, donc, avant une nouvelle épreuve de force sur les retraites en début de semaine. Nouvelle journée d'action mardi, présentation de la réforme mercredi. Du coup, les commerçants misaient gros sur ce week-end. Il commence déjà à déchanter, on verra cela à Lyon. Le football, les victoires de Lille et de Lyon hier soir. Montpellier-PSG, ce sera à 17h30. Ce soir, le multiplex RTL, le Parisien, aujourd'hui en France. Tout cela sous un ciel gris, une météo humide, mais au moins, il fait plus doux.
Ah, c'est un redout hein, pour ce week-end. Redout océanique, des températures qui repartent à la hausse cet après-midi avec 8 degrés à Nancy, 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 12 à Toulouse, 14 à Biarritz, jusqu'à 17 degrés à Ajaccio. Alors c'est très gris sous une perturbation qui donnera encore quelques pluies, mais très faible, très localisée cet après-midi entre le nord-est, la Bourgogne, la Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Massif central, sud-ouest. On espère revoir quelques éclaircies sur la moitié nord dans le courant de l'après-midi. Puis bonne nouvelle quand même pour le sud-est qui a connu quand même deux épisodes méditerranéens les deux derniers week-ends. C'est le retour du beau temps pour ce week-end. Temps sec, ensoleillé entre les Alpes et la Méditerranée avec un petit peu de vent.
Voilà. Et puis bonne nouvelle pour vous, Patricia Charbonnier. Vous pouvez aller déjeuner dès maintenant parce que tout à l'heure, à 13h, c'est vous, Bernard Werber, qui ferez Monsieur Météo.
Avec plaisir.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est donc une scène inédite, très étonnante, qui s'est déroulée hier soir à Amiens dans le box de la cour d'assises de la Somme à l'énoncé du verdict pour Willy Bardon. Cet homme âgé de 45 ans venait d'entendre la sentence, 30 ans de réclusion pour l'enlèvement, la séquestration suivie de mort et le viol d'Élodie Kulik en 2002. Il a alors absorbé un produit, peut-être un pesticide, et le contenu d'une bouteille d'eau avant d'être hospitalisé dans un état grave. Il est toujours en réanimation, son état s'est stabilisé. Franck Hanson, vous êtes le correspondant d'RTL dans la région. Évidemment, on se demande comment cette tentative de suicide dans le box des accusés a pu être possible.
Eh bien, en tout cas, une enquête est ouverte par le parquet d'Amiens, mais depuis le début du procès, Willy Bardon, remis en liberté en 2014, comparaissait libre, même s'il était fouillé à chaque début d'audience. L'axonné n'aurait pas eu trop de difficultés à cacher sur lui un produit. Cet ancien maçon et patron de café avait confié à son entourage sa volonté d'en finir s'il n'était pas acquitté. Il reste sous étroite surveillance à l'hôpital. Son avocat, maître Stéphane Dacco, ne veut accabler personne après ce geste fou.
Je pense que le service d'ordre a fait son travail, hein. Si vraiment on veut cacher quelque chose, pour quelqu'un qui est détenu, c'est déjà assez facile, même si les contrôles sont plus importants. Là, je pense que malheureusement, il faut accabler personne. Il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un coupable, il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un innocent. Le sentiment qui est le mien, c'est que M. Bardon n'a pas supporté cette condamnation. Il la trouve profondément injuste et n'a pas supporté la perspective de retourner en prison.
La défense de Willy Bardon, qui a fait appel de cette condamnation dès hier soir, aspire désormais à un nouveau procès, loin de la Picardie et, je cite, de l'émotion qui a dominé durant cette affaire. Le père d'Élodie Kulik, Jackie, quant à lui plus apaisé, devait se rendre aujourd'hui sur la tombe de sa fille et de son épouse. Lui aussi s'attend à une nouvelle épreuve.
Merci Franck Hanson. Vous vouliez réagir, Bernard Werber.
Oui, je suivais les affaires de droit quand j'ai fait mes études de droit à Toulouse. Ouais. Et il faut savoir une chose, il y a tout le temps l'émotionnel qui empêche de réfléchir. Ouais. C'est-à-dire ces histoires de suicide, de machin et tout, ouais, ça fait qu'on voit rien. Et je regardais la série l'affaire Grégory, on ne peut comprendre réellement ce qui se passe qu'avec du recul. Ouais. Mais sur le coup, on est juste en train de recevoir ces informations et on ne réfléchit pas.
Et puis de réagir évidemment toujours à chaud. Je vous rappelle la mise en examen de François Bayrou, le président du Modem. Il est resté environ 10 heures hier dans le bureau des juges d'instruction au tribunal de Paris pour répondre à leurs questions. C'est l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Il est ressorti tard hier soir, mis en examen donc pour complicité de détournement de fonds publics, une affaire dans laquelle une douzaine de responsables du Modem sont déjà mis en examen, notamment Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. Je vous propose de marquer une pause dans ce journal inattendu de Bernard Werber et dans un instant d'évoquer la galère sur les rails, les perturbations sur les routes et l'inquiétude dans les commerces. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Grignoter.
Le journal inattendu de Bernard Werber avec Vincent Parisot sur RTL.
Malgré le week-end et en attendant la nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites mardi prochain, les perturbations sont donc encore très importantes dans les transports en commun aujourd'hui. À la SNCF, il faut compter un TGV sur 6, 15% des Transiliens, environ un TER sur 6, et puis en région parisienne, un TER sur 10, pardon. Et puis en région parisienne, à la RATP, grosse difficulté également. Deux lignes de métro fonctionnent normalement, les lignes automatiques qui sont les 1 et 14. 5 autres lignes, ainsi que les lignes A et B du RER, vont fonctionner, mais en service réduit à partir de 13h, donc dans 18 minutes maintenant et jusqu'à 18h. Vous trouvez tous les détails sur rtl.fr. Bernard Werber, sur cette affaire des grèves, de la mobilisation, des difficultés dans les transports, je crois que vous vouliez réagir par rapport à ce que vous avez observé chez nos amis les fourmis.
Oui, moi j'ai toujours essayé de comprendre, au-delà de ce qu'on sert aux actualités, qui est toujours, comme je disais tout à l'heure, sur l'émotionnel, donc on ne réfléchit pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi en observant les fourmis, et je me suis aperçu que chez les fourmis, il y en a un tiers qui travaille, un tiers qui ne fout rien, et un tiers qui fait des choses inutiles qui gênent tout le monde. Et malgré tout, c'est un système qui marche. Il ne faut pas croire que toutes les fourmis sont efficaces. Et je me rappelle quand j'ai pu les observer en aquarium chez moi, c'était flagrant. C'est-à-dire, il y a un tiers qui bosse. Mais je crois que nos sociétés humaines, c'est pas très loin. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui fait tout le job et puis le reste qui suit. Mais c'est pas grave, ça fonctionne comme ça et ça fonctionnera toujours comme ça. Il faut accepter qu'il y ait deux tiers qui ne font pas tourner
la boutique. En tout cas, dans ces conditions, puisqu'on parle de boutique, les commerçants des grandes villes commencent à s'inquiéter sérieusement. Ce premier week-end de décembre connaît traditionnellement un gros rush avant Noël. Et ben, ce n'est pas le cas. Par exemple, à Lyon, où cette perturbation dans les transports s'ajoute à des difficultés de circulation, de stationnement. Reportage sur la presqu'île de Lyon, Bertrand Frachon.
Ici, dans la presqu'île lyonnaise, les commerçants ont un peu le moral dans les chaussettes. Dans cette boutique de vêtements, le patron a nettement ressenti l'effet de la grève sur sa fréquentation.
Pour l'instant, sur le début de la semaine, entre lundi et mercredi, on était plutôt bien, bonne fréquentation, tout allait bien. Et à partir de jeudi, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est très calme, beaucoup moins de clients. Grosse gamelle, non, mais une très forte baisse du chiffre d'affaires. On est sur 30% quand même en moins. Mais on a vu pire l'année dernière, donc on est habitué maintenant, hélas.
Autre souci pour les commerçants du centre-ville, les restrictions d'accès en voiture dans le périmètre de la Fête des Lumières. Un barriérage est installé l'après-midi et la végétalisation des rues avec l'installation de nombreux bacs à fleurs pose aussi problème.
Problème de stationnement, de circulation, donc d'accessibilité au centre-ville. Donc il serait sympathique, je ne sais pas qui prendra la décision, d'enlever ces fameux pots de fleurs qui embêtent tout le monde pour ne pas dire autre chose, et la circulation et l'accessibilité, donc plus personne ne veut venir en ville. Les parkings sont surchargés, pour ne pas dire full, donc forcément pour les commerçants. Gros problème.
Tous attendent la fin du mois pour faire le bilan de l'activité, pas forcément serein.
Reportage lyonnais de Bertrand Frachon. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a également de grosses difficultés sur les routes dans certains secteurs. L'organisation patronale des chauffeurs routiers, l'OTRE, proteste contre la baisse d'un avantage fiscal sur le gasoil. Résultat des opérations menées sur les barrières de péage de Toulouse, sur l'A6 près de Lyon, sur l'A13 près de Rouen, ou encore sur l'autoroute A1 dans le nord près d'Arras. Où vous vous trouvez, Antoine Decarne?
Oui, sur la voie d'urgence de l'autoroute en amont du péage de Fresnes. Dans le sens Lille-Paris, une vingtaine de transporteurs routiers sont mobilisés. La mesure de hausse de 2 centimes sur le gasoil ne passe pas.
Les 2 centimes, on les a pas. Si on les avait, on serait pas là.
Kamel Mouada dirige SM Transport, une entreprise régionale de 35 salariés.
Aujourd'hui, on est quasiment à zéro. En fin d'année, on aura moins 30 000 euros. Comme toute société, si on fait moins 30 000 la première année, moins 30 000 la deuxième, etc., il y a un moment, forcément, on ne pourra pas et on devra fermer.
Surtout dans un contexte où les transporteurs sont à la peine avec la concurrence étrangère. Alors, depuis 7 heures ce matin, ils ont également décidé de bloquer sur 5 km tous les camions non français.
Roumains, espagnols, portugais, polonais.
Il n'y a que ça.
C'est fini. Les transporteurs français, il n'y en a presque pas.
Il arrivera un moment, on ne pourra plus, c'est tout.
Un cri d'alarme partagé par tous les transporteurs présents ici, des transporteurs qui comptent poursuivre leur action jusque 14h cet après-midi.
Reportage signé Antoine Decarne. Évidemment, n'oubliez pas le 36-37 aujourd'hui pour faire un don à l'Association française contre les myopathies. La 33e édition du Téléthon a débuté hier soir sur France 2 avec Jean-Paul Rouve en parrain. Objectif, faire mieux que l'an dernier avec un peu moins de 86 millions d'euros récoltés. C'est vrai que l'édition 2018 avait été assez perturbée par le mouvement des gilets jaunes. J'imagine, Bernard Werber, que vous êtes très attentif à ce qui se passe du côté du Téléthon.
Oui, parce que j'ai moi-même une maladie génétique qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante.
Ouais.
J'ai eu les premières crises à l'âge de 8 ans. Ça consiste à avoir tout son corps qui se soude et au final, on vous pose cette question, voulez-vous rester assis ou couché?
Ouais.
Et parce qu'on va se souder dans cette position-là.
Et c'est inéluctable, hein.
En fait, on ne connaît pas encore très bien ces maladies. On était... Au moment où ça a été détecté, on n'était pas assez nombreux à l'avoir pour que ça soit réellement étudié. Donc, on a même fait des expériences de nouveaux produits pour essayer de me soigner.
Parce que vous êtes assis là et vous êtes arrivé debout.
Oui, parce que c'est une bizarrerie, mais ma maladie s'est arrêtée dès la sortie des fourmis. C'est-à-dire le fait que le livre soit publié a arrêté mes crises. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est une forme de thérapie étrange. Je crois qu'il faut se débrouiller pour être heureux. Ouais. Et dès le moment où on est heureux, notre santé s'arrange.
T'as donc voilà, c'est étrange. Incroyable.
Non, j'ai plus de crise depuis la sortie des fourmis.
Voilà. Tant mieux. Et on espère évidemment que ça dure pour vous. N'oubliez pas, 36-37, le Téléthon, je crois qu'on en reparle. On parlera tout à l'heure avec Jean-Louis Aubert, bien votre sûr. Invité. Je sais que vous n'étiez pas bon du tout au foot à l'école, mais je donne quand même des résultats. Lyon a battu Nîmes 4-0, Lille a battu Brest 1-0 hier. Suite de la 17e journée, Montpellier-PSG 17h30. Les autres matchs ce soir dans le multiplex RTL Le Parisien, aujourd'hui en France avec Christian Olivier.
Le reportage inattendu.
Alors Bernard Werber, le reportage inattendu que vous nous avez demandé est en étroite relation évidemment avec votre livre Sa Majesté des Chats, car votre roman se déroule dans un futur proche. Notre civilisation s'est effondrée. Dans un Paris envahi par les rats. Et seule résiste une petite communauté formée de chats et d'humains dans l'île de la Cité. Ce Paris envahi par les rats, et bien c'est déjà une réalité, c'est même une vieille histoire, à l'image de ce magasin où s'est rendu Mourad Djabari.
C'est une boutique restée dans son jus. En 144 ans, presque rien n'a bougé. Le paradis du rat, ou plutôt l'enfer, chaque produit est destiné à l'exterminer. Sur les étagères, les tapettes, pièges et poisons s'empilent. Et en vitrine, une vingtaine de trophées est exposée.
On a des rats suspendus, capturés au Halles vers 1925. Les grands-parents avaient mis ça dans la vitrine pour exposer effectivement les trophées. Des fois, on les remet un peu en teinture parce qu'ils perdent leur couleur avec le soleil. Mais on a des beaux spécimens.
Cécile représente la quatrième génération de dératiseurs de la famille Auron.
Notre arrière-grand-père, il a inventé notamment la tapette à souris, la souricière. Voilà, on a été connus surtout pour ça. Et puis au Halles, avec les anciennes Halles, le quartier, on est resté implanté ici.
Une boutique née en 1872, une époque où les Halles sont le ventre de Paris, une époque où les rats sont déjà bien en chair. La légende dit que l'arrière-grand-père Aurouze aurait capturé un rat de la taille d'un chat.
Il y avait eu un très gros rat attrapé dans les Halles, à la place de Rungis, hein, donc... Oui, il y avait des très gros rats énormes qui faisaient plus de 500 grammes. Vous voyez, il y avait pas mal de décorations avec nos anciens pièges, des médailles.
Voilà. Pour le rat le plus gros ?
Non, c'était surtout pour la mention des pièges.
Aujourd'hui, les Halles ont déménagé, mais les rats, eux, sont toujours là, prolifèrent dans le quartier.
Venez voir une pancarte comme quoi qui est fermée pour dératisation.
Des voisins poilus qui ne payent pas leur loyer et qui, une fois la nuit tombée, pointent le bout de leur museau.
Ah oui, on les croise tous les soirs. Tous les soirs, on a nos petits rats là, qui se baladent et qui sortent et... De partout, c'est un truc assez étonnant. Et ça grouille, hein. Il n'y en a pas un petit peu, il y en a beaucoup. Hein. Ma femme, elle ne veut plus traverser le jardin le soir. Je suis obligé de faire le tour du pâté de maison pour éviter les rats.
Et pourtant, l'animal devenu star depuis le dessin animé Ratatouille, le rat cuisinier, il reste dégoûtant même pour les enfants.
Et on était en train de manger dans le parc. Il y a un rat qui est passé, il y a tout le monde qui a commencé à courir à l'autre bout du parc, c'est trop drôle. Mais des fois, c'est gros, quoi.
Gros et de plus en plus nombreux, visibles de jour comme de nuit, un nuisible impossible à éradiquer. Chargé de la propreté à la mairie de Paris, Paul Simondon cherche avant tout à limiter la présence des rats.
Des rats à Paris, il y en a toujours eu. La question n'est pas de faire disparaître les rats de Paris, mais par contre, d'éradiquer leur présence visible en surface. C'est vraiment le problème de la cohabitation en surface et éradiquer leur présence dans les jardins, par exemple. D'ailleurs, ils ont leur rôle comme niche écologique dans les sous-sols de Paris.
Ne plus être visible, mais sous nos pieds, quoi qu'il arrive, ils seront toujours là et mieux vaut cohabiter puisque Paris compte deux rats par habitant.
Formidable reportage de Mourad Djabari. Deux rats pour un habitant à Paris.
Alors je ne sais pas comment ils ont compté ça. Moi je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Tout simplement parce qu'ils vivent dans les égouts et le métro et qu'il n'y a personne qui est allé les comptabiliser.
Ça, c'est sûr. Impossible à éradiquer. J'ai juste une question toute simple. Si on mettait beaucoup de chats en liberté, ça ne réglerait pas le problème ?
Oui, il y a plusieurs villes en méditerranéenne, en Grèce, en Israël, en Égypte, dans lesquelles il y a des bandes de chats libres. Et je peux vous dire, il n'y a plus aucun rat. C'est un équilibre. Soit on a une ville à chats, soit on a une ville à rats.
Eh ben tiens, les chats, on en parle évidemment dans un instant. Sa Majesté des chats, c'est le dernier roman de Bernard Werber. À tout de suite.
Oui.
RTL. Bernard Werber est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Alors voilà, il chante en même temps, il fait même un peu de air guitare. Bernard Werber, Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. J'ai lu quelque part que c'est ce que vous écoutiez en écrivant votre livre précédent qui s'appelait La Boîte de Pandore, c'est vrai ?
Oui, mais en fait, il y a une émotion dans la musique qui donne pour moi le style. C'est-à-dire, mon style vient de la musique que j'écoute. Ouais. Donc j'écoute de la musique rapide, je vais faire des phrases courtes. J'écoute des longues nappes comme ça, je vais faire des phrases plus longues. J'aime bien que travailler comme c'est un film. J'ai la musique du film. Ouais.
Et pour Sa Majesté des Chats, vous écoutiez quoi ?
Bach. J'ai redécouvert Bach, je me suis aperçu que ce garçon avait une énorme diversité de créations, ouais. Et j'ai l'impression que Bach développe une sorte de subtilité. C'est-à-dire, il y a des moments dans Bach, il y a deux airs différents qui font que le cerveau perçoit une troisième musique. Et c'est ce que j'essaie de faire dans les romans. C'est-à-dire, je vais raconter deux histoires différentes et les gens vont percevoir une histoire qui n'y est pas. Et j'adore cette idée.
Alors, l'histoire. Alors, c'est la suite de Demain les chats, mais il n'est pas nécessaire d'être passé par le premier roman hein, pour comprendre tout de suite et apprécier le second. On avait quitté les chats et les hommes survivants sur l'île des Cygnes, face au quai de Grenelle. Voilà. Et là, on les retrouve sur l'île de la Cité. Pourquoi ? Parce que les rats attaquent, c'est ça un peu ?
Déjà, ils ont préféré l'île de la Cité parce qu'elle est plus grande et qu'ils veulent créer une communauté d'humains et de chats qui puissent résister à l'invasion des rats. Mais ils vont avoir face à eux un nouveau roi des rats qui est plus performant que le précédent roi. Donc, à ce moment-là, on va rentrer dans un conflit ouvert. Vous savez, il y a un petit côté Game of Thrones. Je me suis dit, je vais faire des grandes batailles avec des chats, des humains, des rats, des effets spéciaux. C'est le grand avantage du roman. On n'est pas limité dans les effets spéciaux et dans les cascadeurs.
Alors, comme dans Demain les chats, d'ailleurs, l'histoire est racontée à la première personne par Bastet, c'est ça,
voilà.
Qui vit avec sa maîtresse, Nathalie, qu'elle appelle
sa servante.
Sa servante.
Voilà.
Cette manière de faire parler les chats m'a vraiment fait passer à Colette. À ces histoires, les chats, les humains, elle les appelait les deux pattes. Il y a quelque chose qui est très proche. Vous êtes inspiré de cela ou pas ?
C'est amusant d'essayer de penser autrement qu'un être humain. Alors, je n'ai pas pensé à Colette précisément, mais j'avais cette idée d'essayer de sortir de ma peau d'humain pour penser différemment, en prenant l'hypothèse que les chats pigent des choses que nous ne pigeons pas. Par exemple, ils perçoivent la nature, ils perçoivent leur propre corps, ils perçoivent le bonheur d'une manière qui nous est un peu exotique. Moi, j'ai l'impression que tous les chats sont à la recherche de leur propre bonheur et donc ils nous apprennent des leçons un peu d'égoïsme et en même temps d'harmonie avec l'entourage.
Ouais. Alors, bien sûr, ils ont bien lu tout Werber, les chats, notamment l'ESRA, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qu'on avait vu apparaître dans les fourmis. Ouais. Du coup, Pythagore Werber publie son ESRA des chats et on y apprend que les chats ont une très grosse activité onirique, qu'ils rêvent énormément.
Bah déjà, nous, on ne dort qu'un tiers de notre temps de vie. Les chats dorment la moitié de leur temps de vie. Et il suffit d'observer un chat qui dort, on voit qu'il a toute une activité des yeux sous les paupières qui montre qu'il revit des scènes. Mais on a découvert le sommeil paradoxal en faisant des expériences sur les chats. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, d'ailleurs, de mettre cette clé USB troisième œil sur mon héroïne et mon héros. C'est-à-dire que ça s'est fait réellement. Ce n'est pas la science-fiction.
Non. On a les images. C'était d'ailleurs...
On étudie le rêve chez les chats parce que c'est un animal très rêveur en lui mettant des prises dans le cerveau, ce qui n'est pas très cool, mais quand même qui explique que mon héroïne est une prise.
Ça remonte à 1963.
Les premières expériences, sur les
formidable
chats.
Encyclopédie, on y apprend qu'après l'homme, les animaux les plus intelligents sont le chimpanzé, le dauphin, le porc, l'éléphant, le corbeau, le poulpe, le rat, le chat, le chien et les fourmis. Mais les fourmis sont au sommet de la sociabilité.
Oui, c'est un test fait par des humains. Ouais. Donc pour les humains, être intelligent, c'est ressembler à un humain. Donc il faudrait faire un test des chats et voir est-ce que l'homme fait partie de cette liste.
Ouais, alors ça c'est une autre question. Hein. On en parlera sans doute tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est marquer une pause, rappeler l'actualité et puis accueillir votre invité. Et je suis très heureux que vous ayez choisi d'appeler.
Et moi donc.
Jean-Louis Aubert, il est là. Nous l'accueillons tout de suite dans ce studio. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
J'ai adoré.
RTL. Il est 13h01.
Le journal inattendu de Bernard Werber.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et l'actualité, c'est notamment, on en parlait tout à l'heure, la consternation après la tentative de suicide de Willy Bardon hier dans le box de la cour d'assises de la Somme. Il venait juste d'apprendre sa condamnation à 30 ans dans l'affaire Élodie Kulik. Il est toujours en réanimation, son état s'est stabilisé. Encore beaucoup de perturbations ce samedi dans les transports en commun. Un TGV sur 6, 15% des Transiliens, 10% des TER seulement. À la RATP, trafic très perturbé également, sauf sur les deux lignes automatiques. Quelques autres lignes vont ouvrir maintenant. Elles viennent d'ouvrir d'ailleurs. Elles seront ouvertes jusqu'à 18h mais en service réduit. Des difficultés également sur les routes, avec des barrages filtrants, des opérations escargots de l'OTRE, c'est l'organisation patronale des routiers. Ils dénoncent la baisse d'un avantage fiscal sur le gasoil. Il y a 15 points de blocage au total. En Ile-de-France, en Rhône-Alpes, sur la 7, dans le Nord, sur la 1, près d'Arras ou encore autour de Toulouse, dans l'Aveyron, sur la 75. Pour des informations sur ce qui se passe sur les rails ou sur les routes, évidemment, vous allez sur rtl.fr. Un week-end encore difficile avant une nouvelle épreuve de force sur les retraites. Ce sera en début de semaine. Nouvelle journée d'action, je vous rappelle, mardi. Présentation de la réforme mercredi. Le football, victoire de Lille et de Lyon hier soir, Montpellier, PSG à 17h30. Et ce soir, le multiplex RTL, le Parisien, aujourd'hui en France. Et puis, le Téléthon, on en parlera d'ailleurs sans doute avec Jean-Louis Aubert, invité de Bernard Werber dans un instant. C'est le 36-37, le numéro. Sachez que le chiffre du compteur est actuellement à 14 635 690 euros. C'est vous, monsieur Météo, aujourd'hui, Bernard Werber.
Toujours prêt. Voilà. La météo pour cet après-midi, un temps encore très gris et très humide, avec quelques pluies faibles du nord-est au centre-Val-de-Loire et du massif central au sud-est, au sud-ouest. Le temps sera ensoleillé près des Pyrénées et dans le sud-est, avec des températures en hausse. On attend 7 degrés cet après-midi à Aurillac, 9 à Nancy, 11 à Lille et Paris, 13 à Cherbourg, 14 à Toulouse, auquel je fais un petit coucou.
Bah évidemment, vous êtes toulousain.
Brest et Marseille, et 17 à Ajaccio. Mais c'est toujours eux qui ont du beau temps, les Corses. Hein. Ouais, ça donne envie d'aller là-bas.
Vous l'avez très bien descendu. C'est vrai que vous êtes journaliste, à l'origine journaliste scientifique.
J'ai pas fait que des choses bien dans ma vie. Mon passé honteux ne me le rappelait pas comme ça.
Le journal inattendu sur RTL.
Jean-Louis Aubert, bien sûr, extrait de son dernier album Refuge. Jean-Louis est avec nous. Mais avant de lui donner la parole, Bernard Werber, pourquoi lui? Pourquoi vous l'avez invité? Vous êtes fan? Vous étiez fan de Téléphone?
J'étais fan de Téléphone. J'ai eu la chance de rencontrer Louis Bertignac et j'ai même écrit une chanson
la
pour
chanson
Louis Bertignac.
La chanson des
Gnous. La saga des Gnous.
La saga des Gnous. Ouais.
Et voilà, j'adore aussi ce que fait Jean-Louis. J'adore, surtout, il a une vraie voix. Et on n'a pas besoin d'entendre tous les instruments. La voix porte toute seule. Il pourrait chanter a cappella, ça fonctionne. Déjà, et puis c'est un vrai poète. Il y a plus de poésie dans la littérature parce que c'est un genre qui a été évacué. Et la poésie, on la trouve maintenant que dans les chansons.
Que dans les chansons, et notamment dans l'œuvre de Jean-Louis Aubert.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Grand Rex où il a eu la gentillesse de venir à mon spectacle sur les chats, la fête des chats. Et c'est là où on s'est vu la dernière fois.
Justement, ça sera ma première question. Bonjour Jean-Louis Aubert, d'abord ravi de vous accueillir. Vous aimez les chats?
J'aime beaucoup de monde.
Jean-Louis Aubert, on vous avait quitté triomphant, électrique avec Téléphone au Stade de France, et là on vous retrouve avec Refuge. C'est un double album. Alors il y a beaucoup de piano, un album délicat, tendre, doux, j'ai envie de dire bienveillant, à l'image de ce premier extrait qu'on vient d'entendre, qui est déjà un tube sur RTL, chanson sur la promesse de pas se laisser tomber, de passer les obstacles de la vie, parce que la vie elle est drôlement dure et violente.
C'est un voyage, oui. Mais l'amour, c'est pas que la passion, ça se continue par l'amitié, sûrement. Et la solidarité, en fait, ça concerne pas que l'être aimé. J'aime beaucoup cette idée-là.
Et la durée du couple, la durée de l'amitié, hein, ça peut être d'ailleurs, c'est pas forcément de l'amour, mais le fait de traverser les crises, de traverser les tempêtes.
De traverser les crises et même d'être capable de se séparer. Il y a une phrase qui m'interpelle toujours, c'est quand quelqu'un dit à un autre « je ne pourrais pas vivre sans toi ». Et c'est une gentille phrase a priori, mais...
C'est un mensonge ?
Non, mais l'autre, ça lui met une drôle de chose sur les épaules. Mmh. Parce que si un jour il a envie de faire autre chose, de partir, ça veut dire que tu me tues en faisant ça. Et c'est ça qu'on a dans des problèmes de couple où finalement le gars commence à surveiller, à être déchiré. Je pense que, et c'est un peu ce dont parle cet album, j'ai l'impression qu'il faut être bien d'abord avec soi-même. Et après, ça permet d'être bien avec les autres. Et la bienveillance qu'on a avec soi-même, c'est aussi la bienveillance qu'on a avec les autres. On reproduit notre propre jugement, en général avec l'extérieur.
On met du temps à être bien avec soi-même ? Vous avez mis du temps à être bien avec vous-même, Jean-Louis ?
Je pense qu'il faut avoir... qu'il y a une lumière qui peut éclairer. Et cette lumière, on parlait du Téléthon là, et je me remémore une jeune fille d'une beauté, on aurait dit qu'elle était dessinée par Michel-Ange, elle a voulu être toute seule avec moi dans les loges, et ça m'a mis un peu mal à l'aise, elle était en chaise roulante, elle avait 14 ans, et elle m'a dit, je n'ai plus que 2 ans à vivre, elle était d'une beauté, elle était ravissante. Elle parlait avec la sagesse d'une personne qui connaît tout de la vie. Elle connaissait plus, et ça m'a fait pleurer. Et elle m'a pris les mains, et elle ne faisait que sourire. Elle me dit, c'est merveilleux d'être là, et c'est merveilleux d'être là avec toi. Et jamais, à part quelques ancêtres, et en plus dans des fantasmes, aurait pu me parler comme ça. On aurait dit un vrai conte de fées. Et j'ai jamais oublié ce moment. Cette personne m'a appris plus que tout, quoi.
Le Téléthon, vous serez, j'imagine, ce soir, parce que juste après l'émission, je crois que vous partez répéter. Évidemment, vous n'oubliez pas le 36-37. C'est un double album, dense, il y a 22 titres. Et ça commence avec ça.
Parfois, je me sens si loin d'où je viens. Qui je suis vraiment? N'en sais rien. C'est difficile à dire. Tu sais ce que je peux sentir. Je cherche, je veux trouver quelqu'un que je connais et qui frappe en dedans, qui me dit Jean-Louis.
Alors Jean-Louis Aubert, cette chanson elle a une histoire étonnante parce que vous l'avez écrite avant Téléphone.
Avant Téléphone, oui.
Et vous la mettez aujourd'hui en exergue, en premier d'ailleurs.
C'est curieux, peut-être parce que j'en ai que maintenant le courage, mais j'ai l'impression que c'est une chanson de mon ancêtre. Et effectivement, mon ancêtre, je pense que c'est moi enfant. Et moi, adolescent aussi, c'est vraiment l'adolescence qui m'a mis sur la voie de la musique. Et il y a un fil tendu dans ma vie où j'ai toujours été le même, mais on est tous comme ça. J'ai toujours dit la même chose. J'écrivais aussi à cette époque-là Le silence dans la tête, qui irait bien avec Refuge. Et des fois, quand j'aborde les milieux méditatifs ou de pleine conscience, je dis, mais tu connais ça depuis longtemps avec les chansons que t'as. Et en fait, non. c'est assez curieux ce rapport, j'ai l'impression. Alors, ça devait être le prénom Jean-Louis qui me gênait. Et peut-être, maintenant, je m'aperçois qu'on n'est pas non plus notre nom ni notre prénom. Il y a encore quelque chose de plus fort en nous.
C'est étonnant ce que Jean-Louis nous dit sur son ancêtre lui-même, parce que vous les avez rencontrés, vos ancêtres, lors d'une séance de méditation, non?
C'est ça? Non, moi je m'amuse à utiliser la méditation pour aller voir mes vies antérieures, mais je crois en effet, comme dit Jean-Louis, qu'on est l'esprit qui est intérieur de la viande là, qui parle. Je suis l'esprit qui est dans Bernard Werber, mais comme lui, il est l'esprit qui est dans Jean-Louis Aubert, mais on voit notre vitrine, mais le vrai truc, ben, c'est en fait quand on crée, c'est ses chansons, c'est mes livres.
Jean-Louis Aubert, restez avec nous, hein, avec Bernard Werber, on va parler de lui, d'hypnose, de fourmis, et puis de votre tournée après ces 8 soirs au Bataclan que vous venez de passer. Ouais. Cette tournée avec hologramme, s'il vous plaît. Hein, vous allez envahir les élites.
C'était très émouvant ce Bataclan. Là, c'était très...
En tout cas, on a hâte parce qu'on va vibrer avec vous. Comme tiens, en 97, c'était dans le grand studio RTL.
Oh,
A tout de suite sur RTL, Werber et Aubert.
RTL, 12h30, 13h30, le journal inattendu.
Avec Carme, le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parisot.
Jean-Louis Aubert est l'invité de Bernard Werber. Jean-Louis Aubert, ces trois titres, on va les entendre dans la tournée All Autour.
Oui.
Alors, en version, j'allais dire, acoustique, vous êtes sur scène avec une petite guitare
Il ne faut pas trop en dire. Oui, c'est acoustique, mais cette guitare, même guitare peut se transformer en basse, elle peut se transformer en guitare électrique. Ouais. Et donc, on est un peu, oui, dans l'ancestral troubadour et aussi dans le cyber troubadour. Badour, on est un peu dans la science-fiction puisque j'arrive à faire des solos de guitare électrique sur ce... C'est presque un jouet d'enfant d'ailleurs cet instrument.
Avec votre hologramme sur scène, ça doit...
hologrammes.
Ouais. Oui, bien sûr, j'imagine.
Et en fait, rien n'est préenregistré, donc je suis complètement libre d'improviser. Ça vient d'un livre de science-fiction, cette histoire. Ça fait 15 ans que je cherchais à faire ça, et avoir des petits avatars qui jouent avec moi et qui joue comme moi. Et ben là, c'est vraiment réussi.
Je crois que vous allez aller le voir, forcément.
Oui, non, je suis un fan absolu. Bon.
Bernard Werber, la semaine dernière, Jane Birkin était à votre place. Elle a une question pour vous.
Ah. Bonjour Bernard, c'est Jane Birkin. Je voulais savoir que quand vous étiez petite, du genre 11 ans, 12 ans, est-ce que vous avez tenu un journal intime? Est-ce que vous avez eu des passions enfantines que vous avez noté pour comme une obsession, quoi?
Oui, j'ai commencé à tenir mon journal vers 11 ans et j'ai commencé à faire l'encyclopédie à 13 ans, tout simplement parce que je me suis aperçu que j'avais pas de mémoire, que si je le notais pas, ça allait disparaître. Ouais. Et depuis, j'ai l'angoisse de mon cerveau va me laisser tomber un jour. Il faut à tout prix que je note tout ce que je découvre. C'est marrant, formidable.
Et vous, Jean-Louis? Quand vous étiez petit, vous étiez déjà un petit enfant du rock?
Moi, j'étais un peu comme un hamster. Je faisais du vélo en rond dans mon jardin à toute vitesse. Mmh. Quand je suis arrivé à Paris, je crois que j'étais très dissipé pour le coup parce que je pouvais plus faire ça. Mais j'étais comme Bernard, passais des heures. J'ai un enfant un peu solitaire. Je regardais les fourmis. Des heures et des heures. Je les regardais travailler, je les observais.
Ça, c'est le lien, en fait, entre Aubert et Werber, les fourmis. De février à avril, le All Autour de Jean-Louis Aubert. L'album magnifique est sorti. Refuge et sculpteur de vent.
Ouais, hein, sculpteur de vent. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis d'être avec notre Jules Verne. Ouais. Parce que c'est notre Jules Verne.
Qui avait écrit une chanson pour votre ami Louis Bertignac, hein, la saga des gnous.
Oui.
Bah, on va partir à la pub avec ça. Alors.
Okay.
Merci beaucoup Jean-Louis.
Merci à vous.
Tout le monde s'était arrêté, personne ne bougeait plus.
Le journal inattendu de Bernard Werber avec Vincent Parisot sur RTL.
RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Bernard Werber et Vincent Parisot.
On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air, up ahead in the distance.
Allez. classique des classiques, hein, le slow qui tuait dans les booms.
Exactement. En tout
cas, ah oui, ça c'était formidable. Le solo de guitare de la mort, vous avez choisi Hotel California, pourquoi? Pour tout ça?
Je trouve que c'est le morceau parfait. D'ailleurs, il me plaisait tellement que je l'ai appris, donc je sais le jouer. Ouais. Et il y a une version où on les voit tous en train de jouer à la guitare acoustique, qui est une merveille. Je ne sais pas comment d'un coup ils ont arrivé à toucher cette perfection. Et quand j'ai appris que ça racontait l'histoire d'un hôtel où vont les drogués, tout, je me suis dit, mais c'est pas du tout l'image que je me faisais sur cette ouais. musique.
Et un beau solo de guitare. Hein. Alors, je sais pas s'il aime Eagles et Hotel California, celui qui nous appelle, mais il aime les chats, c'est certain, le chat. Bonjour Philippe Gueluc.
Bonjour Vincent Parisot, bonjour Bernard.
Bonjour Philippe.
Vous connaissez tous les deux en tant que élurophiles, tiens, j'ai appris ça. Ceux qui aiment les chats, ce sont les élurophiles.
Alors moi oui, bien sûr on se connaît, mais Bernard est venu au chat un petit peu plus tard que moi puisqu'il oui. s'intéressait à des bêtes beaucoup plus petites. Mais depuis il m'a cloué sur place tant son savoir est gigantesque.
Vous avez lu un petit peu peut-être Sa Majesté des Chats, je ne sais pas, le livre précédent.
Alors le précédent je l'avais lu et Sa Majesté des Chats est sur ma table du nuit parce que je viens de terminer ce que je devais lire ou ce que je lisais un truc et c'est le prochain donc je me le réserve, je m'en pourlèche les moustaches.
Les moustaches et les oui, je sais pas si on peut dire les babines. Vous avez un nouveau chat, il danse en plus le vôtre, c'est la rumba du chat, 22e album.
Oui, en fait, disons qu'il est à l'orchestre, lui. Il ne danse pas. Ah si, il danse avec une grande blonde, tout de même. Ouais. Des slow. Ouais.
Mais la différence entre vos chats, c'est que le vôtre, Philippe Gueluc, il est débonnaire, alors que ceux de Bernard Werber...
Ils sont un peu plus durs.
Ils sont un peu inquiétants. Mais,
ce qu'on ne sait pas, c'est que Philippe, en fait, c'est un philosophe. C'est-à-dire qu'il fait passer à travers son chat une pensée complètement originale qui vaut celle des grands philosophes même de l'Antiquité. Et les gens le sentent et ils se disent, il y a un truc sympa. Et associé au chat, ça fonctionne vachement. Et j'ai découvert en effet son atelier dans lequel il fait des statues extraordinaires géantes de chats qu'il va mettre bientôt sur les Champs-Élysées. Mmh. Et là, je crois que Paris appartiendra à ce moment-là réellement et à Gueluc et aux chats.
C'est pour quand cette exposition, Philippe ?
Alors, ça débutera le 9 avril 2020, inauguration sur les Champs-Élysées, 20 bronzes monumentaux de 2,70 m de haut. Et c'était là où Botero avait exposé en 92. Ouais. Et voilà, cet endroit est réservé aux gros, finalement. Mmh. Parce que le chat tel que je le dessine...
Ah bah votre chat, oui, il a bien mangé. Hein. Ça, il a pris deux fois de la pâtée. Hein. Ça,
évidemment, mais ce que Bernard... à peu près comme tout ce qu'il dit, je trouve... Moi, je suis passionné par ce bonhomme depuis que je l'ai vu apparaître en littérature. Je trouve que c'est un auteur érudit, passionnant. Il réunit les qualités de tout ce que j'aime en littérature, c'est-à-dire qu'il est il vous prend et on ne le lâche plus. Mmh. Et il vous apprend des choses à travers une histoire qu'il invente.
Et c'est ce qui explique cet incroyable succès, on le rappelle évidemment, en France, en Europe, dans le monde entier. Ouh là là, vous allez rougir.
Je mets sous la table, merci.
Merci beaucoup Philippe Gueluc, la rumba du chat.
Intervenu.
Et puis évidemment Bernard Werber, qu'on remercie pour cette heure passée avec nous. Sa Majesté des Chats chez Albin Michel. Et puis alors pour aller plus loin sur les chats, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats, vous y apprendrez. Plein de choses. Merci beaucoup Bernard Werber.
Merci de m'avoir invité.
C'était un plaisir. Et dans un instant sur RTL, Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré à Kim Kardashian. À la semaine prochaine.
RTL, le journal inattendu.